Le chef mécanicien Ouxlani toisa sans réelle aménité ce jeune homme sans uniforme, qui se comportait avec l'assurance d'un officier de la flotte et semblait occuper un poste d'autorité. Ouxlani, pour qui la flotte régulière était désormais comme une seconde famille, avait une fâcheuse tendance à confondre le grade et la fonction. Pour lui, seul comptait l'uniforme. Mais le mulet en personne avait nommé cet homme à ce poste, et cela lui suffisait, bien entendu. Rien d'autre n'importait. Même au plus profond de son subconscient, aucun doute ne venait l'effleurer. De ce point de vue, le mulet avait bien fait les choses. Sans un mot, Ouxlani remit à Chanis le petit objet ovoïde qu'il tenait à la main. Chanis s'en empara et lui dit avec un sourire engageant « Dites-moi, chef, vous venez de la Fondation, si je ne me trompe. »
« C'est cela, mon commandant. J'ai servi dans la flotte de la Fondation pendant 18 ans avant l'arrivée au pouvoir du premier citoyen. »
« La Fondation vous a donné une formation technique ?»«
Je suis technicien qualifié de première classe. École centrale d'Anacréon. »
« Pas mal. »
« Et vous me dites que vous avez trouvé cet objet dans le circuit de communication ? Là où je vous avais dit d'aller regarder ?»«
Oui, mon commandant. »
« Devait-il normalement se trouver là ?»«
Non, mon commandant. »
« Alors ? De quoi s'agit-il ? »
« C'est un hypertransmetteur, mon commandant. »
« Cela ne me dit pas grand-chose. Je ne viens pas de la Fondation. Quel est son rôle ?»«
C'est un dispositif qui permet de suivre la progression du vaisseau dans l'hyperespace. »
« En d'autres termes, on peut nous suivre où que nous allions ?»«
Oui, mon commandant. » »«
Très bien. » »« C'est un modèle récent, je crois, non ? Il a été mis au point par l'un des instituts de recherche fondés par le premier citoyen, c'est bien ça ?»«
Je pense, mon commandant. » »«
Et son principe de fonctionnement est classé secret défense, exact ?»«
J'en ai bien l'impression, mon commandant. » »«
Et pourtant, le voilà. » Bizarre tout de même. Pendant quelques secondes, Chanis s'amusa à jongler avec l'hypertransmetteur. Puis, brusquement, il le rendit à Ouxlani. « Prenez ça et allez le remettre à l'endroit exact où vous l'avez trouvé. Et dans la même position. Compris ? Et puis oubliez l'incident.
C'est bien compris. »
Réfrénant un salut machinal, le chef mécanicien pivota sur ses talons et s'en alla. Le vaisseau parcourait la galaxie par sauts gigantesques. De courts paliers de 10 à 60 secondes lumière, accomplis en espace normal, alternés en effet désormais avec des intervalles de plusieurs centaines d'années-lumière parcourues, eux, à travers l'hyperespace. Le vaisseau semblait ainsi tracer une gigantesque ligne pointillée à l'échelle galactique. Bail Chanis, assis devant le tableau de commande du galactoscope, ressentait en contemplant l'appareil un sentiment proche de l'adoration. Il n'était pas originaire de la Fondation. Sentir qu'en pressant un simple bouton, en manœuvrant un simple relais, on arrivait à faire interagir de telles forces, n'était pas chez lui un sentiment familier. Le galactoscope n'eût pourtant pas manqué d'intéresser le plus blasé des membres de la Fondation. Cette merveille de miniaturisation recelait dans ses flancs suffisamment de circuits électroniques pour isoler avec précision 100 millions d'étoiles différentes, en reproduisant exactement leur position réciproque. Et comme si cela ne suffisait pas, cet appareil était capable de faire glisser une portion quelconque du champ galactique le long des trois axes de l'espace, ou de faire tourner tout ou partie de ce champ autour d'un centre donné. Pour cette raison, le galactoscope représentait une authentique révolution dans le domaine des voyages interstellaires. Avant son apparition, le moindre saut dans l'hyperespace exigeait entre un jour et une semaine de travail. Une grande partie de ce travail consistait à faire le point, d'une façon plus ou moins précise, pour déterminer la position du vaisseau sur l'échelle galactique de référence. En gros, cela consistait à effectuer une visée correcte sur au moins 3 étoiles largement espacées, dont on connaissait les positions par rapport au triple zéro arbitraire de la galaxie. Connaître leur position, là résidait justement toute la difficulté. Pour quiconque possède une bonne connaissance du firmament, chaque étoile devient vite familière, une vieille connaissance en quelque sorte. Transporter cette même personne à seulement 10 parsecs de sa planète habituelle, en dehors de son système de référence habituel,
et elle sera même incapable de reconnaître son propre soleil. Si tant est que cet astre-là soit encore visible d'ailleurs. Dans ce cas, la solution s'imposait d'elle-même. Il fallait avoir recours à l'analyse spectroscopique. Pendant des siècles, l'objectif essentiel des techniques en astronomie avait été d'analyser la signature lumineuse d'un nombre de plus en plus grand d'étoiles avec une précision de plus en plus poussée. Grâce à cette technique sans cesse améliorée et à la précision croissante du sceau lui-même, des routes régulières avaient pu s'ouvrir à travers toute la galaxie et les voyages interstellaires avaient progressivement cessé d'être un art pour devenir une science. Cependant, même à l'époque de la Fondation, alors qu'on disposait déjà d'ordinateurs plus sophistiqués et d'une nouvelle méthode permettant d'explorer automatiquement le firmament à la recherche d'une signature lumineuse connue, il fallait parfois plusieurs jours pour parvenir à localiser avec précision trois étoiles et calculer ensuite la position du vaisseau dans certaines régions qui n'étaient pas familières aux pilotes. Le galactoscope lenticulaire avait radicalement changé la donne. Tout d'abord, une seule étoile lui suffisait, pourvu qu'elle fût déjà répertoriée. Ensuite, même un novice de l'espace comme Chanis était capable de le faire fonctionner. Selon les calculs de Sceau que l'on venait d'effectuer, l'étoile la plus proche susceptible d'avoir une taille suffisante était Vincetori. Une étoile brillante venait justement d'apparaître au centre du visicran. Chanis croisa les doigts pour que ce fût bien Vincetori. L'écran du galactoscope fut amené tout à côté du visicran de bord et, avec mille précautions, Chanis entra les coordonnées connues de Vincetori. Il ferma le circuit d'un relais et le firmament s'illumina sous leurs yeux. En son centre apparut également une étoile brillante. Elle brillait, certes, mais, pour l'instant, c'était son seul point commun visible avec Vincetori. Il ajusta le galactoscope le long de l'axe Z et agrandit l'image jusqu'au moment où le photomètre indiqua une même valeur de brillance pour les deux astres. Chanis chercha une seconde étoile de luminosité convenable sur le visicran et, se reportant à l'écran du galactoscope, y découvrit aussitôt un astre correspondant. Lentement, il fit tourner l'écran pour obtenir un angle similaire de déflexion. Il eut une grimace de dépit. Il tenta la même expérience avec une deuxième étoile brillante, puis une troisième. Il sourit. Cette fois-là était la bonne. Peut-être un spécialiste mieux entraîné à la perception des rapports eût-il réussi du premier coup, mais après tout, une réussite au bout de trois essais, ce n'était déjà pas si mal. Voilà pour le réglage. Dans la phase finale, les deux champs stellaires se superposaient et se fondaient l'un à l'autre, mais très imparfaitement. La plupart des astres apparaissaient sous la forme de jumeaux très rapprochés. Il suffisait alors d'affiner le réglage, l'affaire de quelques minutes. Les étoiles jumelles se fondaient en une seule. Le firmament retrouvait son aspect habituel et l'on pouvait désormais lire directement la position du vaisseau sur les cadrans. L'opération avait duré au total moins d'une demi-heure. Chanis trouva Pritchard dans sa cabine personnelle. Selon toute apparence, le général se préparait à se coucher. Il leva les yeux.
Du nouveau ?
Pas spécialement. Plus qu'un saut, et nous serons sur Finstellis.
Je sais.
Je ne voudrais pas vous empêcher de dormir. Mais avez-vous jeté un coup d'œil sur le film que nous avons trouvé sur Syl ? Anne Pritchard jeta un regard peu amène à l'objet en question, lequel se trouvait encore posé pour l'heure bien à l'abri dans son boîtier de couleur noire sur le meuble bas qui lui servait de bibliothèque.
Oui.
Et qu'en pensez-vous ?
Je pense que si l'histoire a jamais été élevée au rang de science exacte dans cette partie de la galaxie, cette époque-là est désormais révolue.
À ces mots, Chanis sourit de toutes ses dents. Je vois ce que vous voulez dire. Plutôt sec comme exposé, n'est-ce pas ?
Pas si vous avez du goût pour les chroniques autobiographiques des grands de ce monde.
Ce document n'est pas fiable, à mon avis, dans un sens comme dans l'autre. Dès qu'il commence à être question non plus de l'histoire en général, mais des individus en particulier, tout devient immédiatement tout noir ou tout blanc. En fonction des intérêts de l'auteur,
Il n'y a absolument rien à tirer de tout ça, voilà ce que j'en pense.
Pourtant, ce document parle de Finstelis. C'est pour ça avant tout que je vous ai confié ce film. C'est le seul, parmi tous ceux que j'ai pu trouver, qui en fasse mention.
Soit. Ils ont eu de bons et de mauvais dirigeants. Ils ont conquis quelques planètes, remporté quelques victoires, perdu quelques batailles. Je ne leur trouve rien de particulièrement remarquable. Je n'ai pas une très haute opinion de votre théorie, Chanis.
Certains détails vous ont échappé alors. N'avez-vous donc pas remarqué qu'ils n'avaient jamais pris part à aucune coalition? Ils se sont toujours tenus soigneusement à l'écart de la politique interstellaire locale. Comme vous le dites, ils ont conquis quelques planètes, c'est vrai. Mais vous remarquerez qu'ils ont mis un terme à leur expansion sans avoir éprouvé aucune défaite écrasante, aucun revers d'importance. On a l'impression qu'ils ont occupé juste assez de territoire pour pouvoir assurer convenablement leur propre protection, mais pas suffisamment pour pouvoir attirer l'attention sur eux.
« À votre aise, »
répondit l'autre, avec une indifférence renouvelée.
« Posez-vous donc sur cette planète. Je n'y vois pas d'objection. Qu'est-ce que nous avons à y perdre? Quelques jours dans le pire des cas. »
« Détrompez-vous. Dans le pire des cas, c'est la défaite qui nous attend. La défaite totale. Du moins s'il s'agit bien de la seconde fondation. Dans ce cas-là, vous m'avez l'air de l'oublier, nous nous trouverions en présence d'un monde peuplé d'un nombre incalculable de mulets.
Et quelles sont vos intentions?
Je compte me poser sur l'une de leurs planètes vassales. Un monde de moindre envergure. J'ai l'intention d'y recueillir autant de renseignements que possible sur Finstelis et d'improviser ensuite à partir de ces éléments.
Parfait. Pas d'objection. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais bien éteindre la lumière.
Chanis salua son interlocuteur d'un geste et prit congé. Et dans l'obscurité d'une cabine minuscule protégée du vide de l'espace par une simple coque de métal lancée à pleine vitesse à travers l'immensité interstellaire, le général Ann Pritchard, incapable de trouver le sommeil, se mit à suivre le cours de ses pensées, qui étaient pour l'heure rien moins que fantastiques. Si tous les indices qu'il s'efforçait si péniblement d'admettre se trouvaient vérifiés, alors Finstelis était bien la seconde fondation. Il n'y avait pas à sortir de là. Mais comment? Comment cela se faisait-il? Était-il possible que ce fût Finstelis? Un monde à ce point banal? Que rien ne distinguait parmi tant d'autres. Un sordide bidonville perdu au beau milieu des ruines de l'Empire, une aiguille rouillée dans une botte de foin pourrie. Comme dans un rêve à demi oublié, il voyait à nouveau devant lui le visage ratatiné du mulet qui, de sa voix fluette, lui parlait, comme il l'avait fait de si nombreuses fois auparavant, de ce fameux psychologue de l'ancienne fondation, Deblin Miss, le seul homme à avoir peut-être réussit à percer le secret de la seconde fondation. Pritchard se souvenait fort bien avec quelle gravité le mulet s'exprimait dans ces moments-là. Il disait toujours à peu près ceci.
« Miss semblait littéralement bouleversée, pétrifiée d'étonnement, comme si quelque chose dans la nature même de la seconde fondation, avait de loin surpassé son attente, comme s'il venait de découvrir que cette fondation s'était développée dans une direction totalement imprévue. Si seulement j'avais été capable de lire ses pensées plutôt que de déchiffrer ses émotions. Celles-ci, cependant, m'apparaissaient en toute clarté. Une immense surprise, voilà ce qui prédominait alors dans son esprit.
La surprise.
Tel était donc l'élément fondamental, quelque chose de radicalement inattendu. Et voilà que ce jeune freluquet arrivait et se réjouissait sans vergogne à l'idée d'aller visiter Finstellis, une planète arriérée parmi des milliers d'autres. Il fallait qu'il eût raison. Il le fallait absolument. Sans quoi rien n'aurait plus eu de sens. La dernière pensée consciente de Preacher fut moins amène. L'hypertransmetteur qu'il avait disposé le long du tube éthérique était toujours en place. Il l'avait vérifié une heure auparavant, profitant d'un moment où Chanis était occupé ailleurs. Deuxième interlude. La réunion était des plus informelles. Elle se tenait en l'occurrence dans l'antichambre de la salle du conseil. Avant d'y pénétrer, de débuter officiellement la séance et de passer à l'examen de l'ordre du jour, on en profitait pour échanger ainsi quelques idées. Ces échanges fusaient à la vitesse de la pensée. Ainsi le mulet s'est décidé. Il est en route.
C'est ce que je viens d'apprendre moi aussi. C'est risqué. Bougrement risqué. Pas si les événements suivent les fonctions établies. Le mulet n'est pas un homme ordinaire. Et il est bien difficile de manipuler les instruments qu'il s'est choisis sans qu'il s'en aperçoive. Une fois sous contrôle, un esprit devient difficile à influencer. On dit qu'il a surpris la chose dans certains cas. Oui, je ne vois pas bien comment on pourrait l'éviter. Les esprits libres sont plus malléables, mais ceux qui occupent encore dans ces rangs un poste d'autorité se comptent désormais sur les doigts d'une main.
Ils pénétrèrent dans la salle du conseil. D'autres membres de la seconde fondation les suivirent.